بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche le 24 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 12 avril 2026. Nous nous retrouvons afin de lire ensemble cette risala de notre noble cheikh, Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance et nous raffermisse tous sur la vérité jusqu'à le rencontrer. Risala ismuha ma hiya salafiyya. Donc on est toujours dans le cinquième point de cette risala, dans lequel Cheikh Hafidhahullah a abordé quelques mérites du suivi des pieux prédécesseurs et de la salafia. Et nous avons vu que la salafia, ce n'est autre que le suivi de le Coran et de la sunna authentique avec la compréhension des compagnons qu'Allah les agrée. Et donc, rentre dans cette appellation tous ceux qui adhèrent à cette méthodologie et qui suivent cette voie réellement. Et on s'était arrêté sur le sixième mérite que Cheikh Hafidhahullah a cité. Il a dit « أن الملتزم بها محصل للسعادة في الدارين. » Celui qui se tient et qui se cramponne à cette voie obtiendra le bonheur dans les deux demeures, dans cette vie mondaine et dans l'au-delà, lorsqu'il rencontrera son Seigneur. والسبب في هذه السعادة أنه ممتثل لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Et la raison de ce bonheur et de cette joie dont il bénéficiera tout simplement, c'est qu'il se conforme à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. بخلاف المعرض عنها الذي توعده الله تعالى بقوله. Contrairement à celui qui se détourne de cette voie et donc qui se détourne de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son noble messager alayhi salatu wa salam. Donc celui-là, il est menacé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. عفوا il a cité « وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif de ce verset: celui qui se détournera de mon message, de mon rappel et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Comme vous savez, le Coran et la Sunna sont tous les deux une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Nabi a dit explicitement. Il a dit « Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah » Il a dit « Certes, j'ai reçu le Qur'an et son semblable, son équivalent avec, qui est la sunna, la tradition du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, qui est la deuxième révélation, avec les nuances qu'il y a entre les deux. Le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna, c'est les paroles du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Mais l'essence sont révélés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, celui qui se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. فإن له معيشة ضنكا. والضنك هو ضيق الحياة, ضيق المعيشة. C'est une étroitesse. Il aura certainement une étroitesse, une gêne dans sa vie. معيشة ضنكا. Et ونحشره يوم القيامة أعمى. Et il sera ressuscité. Je vais voir la connexion. Donc, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons, il sera ressuscité aveugle. Il sera ressuscité aveugle. Et il dira, ô Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors qu'auparavant, c'est-à-dire dans le bas-monde, j'étais voyant. Allah lui dira, dans le sens, de même que nos signes, yani les enseignements d'Allah, t'étaient venus et que tu les as oubliés, aujourd'hui, tu seras oublié. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Tu seras abandonné. Comme tu t'es détourné des enseignements d'Allah et de sa révélation, Allah t'abandonnera ce jour-là. Et ça, c'est contrairement à celui qui a suivi la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit à son sujet, فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allahu Akbar. Celui qui suit ma guidée, il ne sera ni égaré, ni malheureux. Il ne sera ni égaré, bien évidemment, car il est sur la bonne voie, ni malheureux. Il sera dans le bonheur, le vrai bonheur, qui ne se trouve que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dont le degré est relatif et proportionnel au degré de notre attachement à la religion. Ensuite, Cheikh a dit, فَالْمُتَمَسِّكُ بِهَا مُعْرِدٌ أَوْ مُتَّبِعٌ. Donc c'est une question. Celui qui se cramponne et qui s'attache à cette voie, est-ce qu'il est dans le suivi ou dans le détournement? Est-ce qu'il est dans le tamassuk ou l'iqbal ou huwa fil i'rad? La shak annahu mutamassikun. Cheikh a dit, al-mutamassiku muttabi'un ghayru mu'rid. Celui qui s'attache à cette voie, il est sans aucun doute dans le suivi et non pas dans le détournement, car il est dans le rappel de son Seigneur et l'adoration de son Seigneur et dans le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذا فهو موعود بالنعيم المقيم. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis le bonheur permanent. Le bonheur permanent et éternel. والأجر العميم. Et la récompense immense, la grande récompense. قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, ce sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui obéit à Allah et son messager le fera entrer dans des paradis en dessous desquels coulent des rivières dans lesquelles ils resteront éternellement. Et ceci est la vraie réussite. Ceci est la grande réussite. L'immense succès. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si vous divergez, et si vous êtes en désaccord à propos de quelque chose, alors ramenez-la à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Voilà qui est bien meilleur et aux conséquences plus heureuses. C'est ça le devoir des muslimines. Dans chaque question de divergence. Comme vous savez, mes frères, nous n'avons pas de divergence dans les fondements de la croyance. Il n'y a pas de divergence dans les fondements de la croyance. Les divergences peuvent exister à la fois dans des questions qui font partie de la croyance, mais ce n'est pas des questions fondamentales. C'est des questions secondaires liées à des fondements de la croyance. Comme vous savez, il n'y a pas de divergence au sujet du monde tombal et qu'il est réel et qu'il y a des gens qui seront dans des délices dans leur tombe et d'autres seront dans des supplices et des châtiments. Il n'y a pas de divergence entre Al-Sunnah et Al-Jama'a à ce sujet. La divergence, c'est uniquement entre les suiveurs de la Sunnah et les innovateurs. Par contre, vous pouvez trouver une divergence entre Al-Sunnah et Al-Jama'a sur des points secondaires liés à ce point fondamental. Comme est-ce que le châtiment et les délices seront sur l'âme ou sur le corps ou sur l'ensemble des deux. Par contre, dans les questions de la jurisprudence, nous avons des divergences. Et la divergence n'a jamais été un argument. Ce n'est pas parce qu'il y a une divergence entre des savants qui suivent la sunna que ça autorise à la personne de choisir la vie qui lui plaît, qui lui convient. Ça, c'est une mauvaise compréhension qui est constatée chez certains de nos frères et sœurs, qui pensent que le fait que les savants ont divergé en deux avis, il a le droit de choisir la vie qui lui convient. Et ça, c'est faux. Ce qui est juste, si tu as les outils de la compréhension et que tu as étudié un minimum, c'est de revenir aux deux avis. Par exemple, si on suppose qu'il y a deux avis, de les étudier et de voir ce qui te semble le plus proche de la vérité et de le suivre. Et de craindre Allah de ne pas suivre l'avis arrangeant ou l'avis de la facilité. Yani, la facilité, ce n'est pas toujours la vérité. Effectivement, la vie juste, il peut être la vie le plus simple, le plus facile. Lakin, ce n'est pas un critère de choix. Le critère de choix, c'est de suivre ce qui te semble le plus proche de la vérité. Et celui qui n'a pas ses outils, il revient tout simplement aux hommes de science. Il ne revient pas aux avis. Il va chercher les avis sur Internet et après, malheureusement, on est éprouvé avec ça à notre époque. Avant, ça n'existait pas. Avant, n'avaient accès aux divergences des hommes de science que les étudiants, que ceux qui vont vers les livres. Et les grands livres, les divergences, tu ne vas pas trouver, elles ne sont pas abordées dans les questions pour débutants. Tu vas, Annie, par exemple, on prend un exemple de le madhhab al-Hanbali. Si tu étudies Umdat al-Fiqh, le premier livre que l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi a fait, il n'y a pas de divergence, il y a un seul avis. Et si tu prends le deuxième livre, tu passes au deuxième niveau, plus élevé, par exemple le Muqni', tu vas trouver qu'il va citer plus d'un avis, mais toujours dans le madhhab al-Hanbali. Et dans un livre encore plus grand, il cite plus d'avis, mais toujours dans le madhhab al-Hanbali. Jusqu'à arriver à son livre le plus grand dans le fiqh, qui est le Mughni, où là, il va citer les divergences entre les différentes écoles. et les différents hommes de science, de tous les madhhabs. Donc malheureusement, nous, sans avoir les outils, on va accéder à la divergence entre le madhhab. Il n'y a ni celui qui n'a pas les outils, son devoir tout simplement, c'est d'interroger les hommes de science, comme Allah Azza wa Jalla dit. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il revient à un homme de science de confiance et il lui pose la question, il met en pratique ce qu'il lui dit comme réponse. Tayyib. Donc par rapport à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Si vous êtes en désaccord par rapport à une chose, quelle que soit cette chose-là, dans votre religion, ramenez-la au texte. Ramenez-la au livre d'Allah. La ramener vers Allah, c'est la ramener vers son livre. Et la ramener vers le messager d'Allah, c'est la ramener à sa personne pendant son vivant et à sa sunnah après sa mort. Et c'est ça l'attitude de ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier. Et c'est ça la meilleure des, et c'est ça la meilleure solution. Car c'est ça qui aura les meilleures des conséquences et les conséquences les plus heureuses. Car c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et c'est ça le bien. Et le bien, bien évidemment, c'est dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous. Et ensuite, il a rapporté la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, dans laquelle il a commenté ce verset. فَإِن تَنَازَعْتُمْ. Il a dit, ce verset indique que l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, وَتَحْكِيمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ سَبَبُ السَّعَادَةِ عَاجِلًا وَآجِلًا. Ce verset indique que l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager et de se juger à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, ça c'est la cause du bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Et ensuite l'imam Ibn al-Qayyim dit وَمَنْ تَدَبَّرَ الشُّرُورَ الْوَاقِعَةَ فِيهِ وَمَنْ تَدَبَّرَ الْعَالَمَ وَالشُّرُورَ الْوَاقِعَةَ فِيهِ. Et celui qui médite au sujet des mots que nous trouvons répandus dans ce monde, yani tous les problèmes de ce monde. Si tu médites en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit « عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. » Allahu Akbar. Il saura que la cause de tout mal dans ce monde, c'est يعني المخالفة, c'est de ne pas obéir, de ne pas suivre le messager عليه الصلاة والسلام. Le désaccord avec le messager alayhi salatu wassalam, wal khuruj an ta'atihi, et de sortir de son obéissance alayhi salatu wassalam. Il saura également wa kullu khayrin fil alami sababuhu ta'atu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, et que tout bien dans ce monde, sa cause c'est l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wasallam, le suivi du prophète sallallahu alayhi wasallam. وَكَذَلِكَ شُرُورُ الْآخِرَةِ وَآلَامُهَا وَعَذَابُهَا. Et de la même manière, regardez, il nous a cité d'abord l'exemple de ce que nous voyons avec nos yeux et ce que nous constatons avec nos propres yeux directement. C'est le bas monde. Médite sur les problèmes de ce bas monde, tu vas trouver que tous, ils reviennent à la désobéissance à Allah et son message. Et le bien, tout le bien, tout bien que tu puisses constater dans ce monde, c'est une obéissance à Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et de même, pour les mots de l'akhira. Et ses peines, et ses supplices et châtiments. Toutes les douleurs, toutes les peines, tous les mots de l'akhira également reviennent à cette cause. L'obéissance à Allah et son messager. Ou la désobéissance. Innama huwa min mujibati mukhalafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, ce sont les conséquences de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et poursuit l'imam Ibn al-Qayyim en disant fa'ada sharru ad-dunya wal akhirati ila mukhalafati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ma yatarattabu alayhi. Donc le mal de ce bas monde et de l'au-delà reviennent tous à la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam et ce qui en découle. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. والله يا إخوة, c'est des paroles qui peuvent sembler tellement simples, tellement évidentes, mais c'est un magnifique rappel pour nous tous de se rappeler ces vraies notions, ces choses fondamentales que l'imam Ibn al-Qayyim exprime ici. Il dit فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته. Si les gens obéissaient au messager عليه الصلاة والسلام comme il se doit, لم يكن في الأرض شر قط. Il n'y aurait pas eu de mal sur terre du tout, aucun mal. Ça aurait été la solution à tous les maux sur cette terre et dans ce monde. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه. Et ça, ces paroles sont valables que ce soit pour les maux qui touchent l'humanité d'une manière générale et les communautés d'une manière globale, mais également pour les maux qui touchent le serviteur d'une manière individuelle. Car il y a des maux qui sont généralisés et il y a des maux qui sont uniquement sur l'individu. Donc cette règle, elle est valable pour les deux cas. Ensuite, il a dit وَلِأَنَّ طَاعَتَهُ هِيَ الْحِسْنُ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ. Car l'obéissance au messager, en réalité, c'est la forteresse que celui qui y rentre et s'y abrite, il sera parmi, yani, il sera en sécurité, il sera à l'abri. Celui qui rentre dans cette forteresse, il sera protégé et il sera en sécurité. والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. Et c'est la caverne que celui qui rentre dans cette dernière sera parmi les sauvés. Il sera sauvé. Yani, il fait allusion à Ashab al-Kahf, qui ont été sauvés parce qu'ils ont fui leur peuple qui était sur shirk et la mécréance, et ils sont revenus à cette caverne pour s'éloigner du mal dans lequel était leur peuple. Ça, c'est l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam. فَعُلِمَ أَنَّ شُرُورَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّمَا سَبَبُهُ الْجَهْلُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْخُرُوجُ عَنْهِ. Et donc là, il donne un résumé. Il dit, et comme résumé de tout ce qu'il a cité, il a dit, فَعُلِمَ أَنَّ شُرُورَ الدُّنْيَا, que les mots de ce bas-monde et de l'au-delà, tous reviennent à l'ignorance d'avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de ne pas le respecter et obéir au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc tous les maux reviennent à une de deux causes, et ce sens Ibn al-Qayyim rahimahullah le cite dans beaucoup de ses ouvrages, que tous les maux de ce monde reviennent à deux causes. Dans d'autres livres, il les exprime d'une manière différente. Il dit « Fasadu al-ilmi ou fasadu al-qasd ». Tous les maux dans ce monde reviennent à deux choses. À une science corrompue, elle n'est pas une science profitable et bénéfique. Et la science profitable et bénéfique, comme vous savez, c'est la science tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Là, qui ne sait pas parce que tu as une science bénéfique et profitable, qu'elle te sera profitable forcément. Pas toute personne qui a appris la science bénéfique et profitable, elle a tiré profit de cette science. C'est pour ça que le Nabi, il demandait à Allah une science profitable, une mise en pratique pieuse et acceptable. Celui qui tire profit, c'est celui qui met en application. La science n'est pas une fin, n'est pas un objectif en soi-même. La science, c'est un moyen pour parvenir à l'adoration d'Allah comme Allah aime et agrée. Et donc, les maux de ce monde reviennent à une lacune dans un des deux points. les deux rangs vont donner comme conséquence la désobéissance au prophète alayhi salam. Lakin, cette désobéissance, elle peut être due à l'ignorance d'avec quoi il a été envoyé, ou le connaître mais pas le mettre en pratique. C'est pour ça, ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits et de ses faveurs, al-mun'amu alayhim, que nous demandons à Allah dans chaque raka'a de nous guider sur leur voie et dans leur chemin, qui est le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, l'unique chemin de la vérité. C'est le chemin de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits et de ses faveurs. Et ces gens-là, c'est tout simplement ceux à qui Allah a donné l'ilm al-nafi' ou l'amal salih. يعني هذا هو le summum du summum. Qu'Allah t'accorde l'ilm al-nafi' et te permette d'œuvrer en fonction de cette science. Et salaf, salaf, il pouvait appeler quelqu'un. De toute manière, dans le Coran, c'est clair ce sens, il est mentionné dans le Coran. Anna, celui qui désobéit à Allah, c'est un jahil, même si c'est le plus grand savant. Il est jahil, même s'il connaît que c'est un péché. Il est jahil à ce moment-là de la grandeur et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'instant où il a commis le péché, il était forcément jahil. Même si c'est le plus grand savant, au moment où il commet le péché, il est ignorant. Car s'il n'est pas ignorant de la gravité de son péché, ou là des conséquences de son péché, il a une certaine ignorance vis-à-vis de la grandeur et de l'immensité, de l'azama d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, yani, salaf, il décrivait certains innovateurs comme des ignorants. Et les gens, ils s'étonnent, ils disent, comment un tel, c'est un ignorant? Alors qu'il a énormément de science, énormément de mémorisation. L'anna, tout simplement, toute personne qui ne met pas en pratique sa science, elle est ignorante. Et même l'ignorant, il peut être meilleur que lui auprès d'Allah. Celui qui ne sait pas. C'est pour ça, l'ilm, hujjatul laka aw alayk, c'est un argument en ta faveur ou contre toi. Ensuite, il a dit, il a terminé sa parole en disant wa hadha burhanun qati'un ala annahu la najata lil 'abdi wa la sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'ilman wal qiyam bihi 'amala. Il dit, et ça c'est un argument irréfutable, que il n'y a pas de sauvegarde possible, ni imaginable, ni de bonheur pour le serviteur qu'en multipliant les efforts et en redoublant les efforts pour connaître avec quoi a été envoyé le prophète alayhi salam. Le connaître, yani avoir la science de la révélation avec laquelle a été envoyé le prophète alayhi salam et de la mettre en pratique. Yani le bonheur et la sauvegarde du serviteur, c'est avec les deux, avec l'ilm et la mise en pratique de ce ilm. لكن ها هنا تنبيه لكل نبي وتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. Donc Cheikh, il va attirer notre attention ici sur un point très important. Et un rappel, et le rappel est bénéfique pour les croyants. Il a dit « Laysa kullu man idda'a as-salafiyyata sadiqun fi da'wa ». Ça, c'est très très important. Il faut savoir, mes frères, que pas toute personne qui se dit salafi, il est salafi. Pas toute personne qui se dit salafi est forcément un salafi. As-salafiyya, ce n'est pas des prétentions, ce n'est pas des paroles. Comme on l'a compris, à travers cette risala concise et résumée, salafiyya, c'est tout d'abord une science. Il faut savoir ce que c'est as-salafiyya et une mise en pratique de cette science. وهذا أيها الأحبة ليس من التحجير كلا والله. Et en disant cela, c'est pas une manière de rétrécir ou un rétrécissement ou un resserrement. Il a dit non, au contraire, بل لا بد من البينات على هذه الدعوة. Comme si nous, on veut faire sortir de la salafia. Pourquoi on n'accepte pas tous ceux qui disent « on est salafi, on est salafi » et on les croit sur leur sur parole? Non. Lakin, ce n'est pas comme ça. Il a dit « بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى » Il est indispensable de ramener les preuves et les arguments sur cette parole et cette prétention que la personne est salafi. « مِنَ الْعَمَلِ » بما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة الشريفة من لزوم الجادة السوية et ceci avec la pratique et l'application de tout ce que indique cette noble appellation, notamment de se conformer à la voie droite. Car nous entendons et nous lisons des gens qui s'apparentent à la salafia et qui se disent salafis. Lakin, en réalité, ce ne sont que des tromperies et des mensonges. وَهُوَ عَلَى النَّقِيدِ مِنْهَا طَرِيقَةً وَمَنْهَجًا أُصُولًا وَفُرُوعًا. Et quand tu regardes, en réalité, tu trouves que cette personne qui se dit salafi, un tel affari, tu vas trouver qu'il est à l'opposé de la voie salafi, à l'opposé de cette voie, que ce soit dans la méthodologie, ou dans les fondements, ou même dans les branches. الفروع ومن العجائب إطلاقات بعض الأفاكين جملة من الأسماء المضللة المشوهة لهذا الاسم الشريف مثله. Et parmi les choses étonnantes également, c'est de trouver certains, d'entendre et de lire certains imposteurs qui donnent des appellations afin de يعني d'égarer les gens de cette noble appellation et de falsifier ses sens. Par exemple, ils disent As-salafiyyatul jihadiyya. Ils disent As-salafiyyatul jihadiyya. Ils disent Was-salafiyyatul ilmiyya. Et aussi parmi les appellations Wal-jama'atul salafiyyatul lid-da'wati wal-qital. Donc, salafiyya. Ils se distinguent des autres salafis, ils disent « Nous, on est la salafia jihadiya. On est des salafis, mais on fait le jihad. Et les autres, on est des salafis, mais que dans la science. » Et en réalité, ce n'est pas ceux qui sont dans la science qui disent qu'on est salafi al-ilmiya. C'est les takfiriyin, salafi al-jihadiya, c'est takfiriyin. Salafi al-jihadiya, c'est eux qui disent des autres salafis qui ne font pas le jihad. Parce que les conditions ne sont pas réunies, ils les traitent comme des salafis qui ne s'intéressent qu'à la science et non pas à la mise en pratique. Ou as-salafiyya lid-da'wati wal-qital, qui appelle au combat. Wa halumma jarra fi siyaqin khalfa rasmi ahli al-ahwa' wal-bid'ah hadwa al-qudhdati bil-qudhdah. Et dans d'autres appellations qu'ils utilisent afin d'égarer les gens et يعني de donner une mauvaise image de la vraie salafia. C'est pour ça que les gens, après, ils tombent dans la confusion. Ils ne font pas la différence. Ils disent, tous, ils se disent salafi. Lakin, ce n'est pas avec les appellations et ce n'est pas avec les prétentions. Salafia, c'est une réalité et c'est une méthodologie qui doit se traduire dans tes croyances, dans tes adorations, dans ton comportement et dans toutes tes affaires religieuses. هذه السلفية الحقة sur laquelle étaient nos hommes de science, notamment les grands parmi eux de cette époque, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Mohamed Amal Al-Jami, Cheikh Ahmed Najmi, Cheikh Zayd Ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, Cheikh Salih Al-Haydan, Rahimahullah, Rahimallah Jami' Al-Ulama. Tous, ils étaient sur la vraie salafia. Contrairement à ces gens-là. Et c'est pour ça que tu vas trouver ces gens qui disent qu'ils sont sur la salafia jihadiya, tu vas les trouver dénigrant les ulama, les vrais ulama de la salafia. Ils les dénigrent. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم لا تغتر بقول من قال أو لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب إن من أحب قوما اتبع آثارهم. Ça, c'est une belle parole, une belle citation de l'imam Al-Hassan Al-Basri, qui rappelle ce sens. Il dit, ô fils de Adam, ne sois pas leurré par les propos de celui qui dit, l'homme sera avec ceux qu'il aime. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Ça, c'est un hadith. Lakin, qui a été mal interprété, mal compris par certains. Ils ont cru que l'amour, c'est de prétendre que t'aimes le Nabi alayhi salam, tout simplement, et tu seras avec lui. Lakin ici, Hassan al-Basri rahimallah va nous expliquer ce que c'est le vrai amour. Et donc, la conséquence, c'est que tu seras avec ceux que t'aimes. L'homme sera avec ceux qu'il aime quand son amour est véridique. Et non pas que des prétentions et des paroles comme ça. Ensuite, il a dit, Inna man ahabba qawman, car celui qui aime des gens suivra leurs traces. Et tu ne rejoindras les pieux qu'en suivant leurs pas et leurs traces. Et que t'empruntes la même voie que eux. Et que tu suives la même guidée que eux. Et tu commences ta journée et tu la termines tout en étant sur leur voie. Allahu Akbar. Harisan ala an takuna minhum. Très attaché à être avec eux et parmi eux. Fatasluka sabilahum. Et ainsi tu t'emprunteras leur chemin. Wa ta'khudha tariqahum. Et tu prends leur voie. Wa in kunta muqassiran fil 'amal. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Quand bien même tu es négligent dans les œuvres, quand bien même tu n'arrives pas à leur degré et leur excellence dans les œuvres, que ce soit en quantité et encore moins en qualité. Lakin, tu es sur la même voie que eux, tu es sur la même compréhension des textes et tu fais de ton mieux et de ton maximum. Lakin, tout en faisant de ton maximum, tu ne pourras pas atteindre le degré d'adoration sur lequel était le prophète alayhi salam et ses compagnons. Et même Anas radiallahu anhu qui a rapporté ce hadith, il a dit, yani savoir qu'il ne peut jamais faire les mêmes adorations que Abu Bakr et Omar. Et malgré cela, il espérait être avec eux au paradis. Pourquoi? Parce qu'il est à son maximum, comme eux, ils sont arrivés à leur maximum. Et c'est ça qui compte. C'est pas d'arriver à la même qualité et quantité d'adoration, lakin d'être à ton maximum. C'est ce que Allah t'a permis. Et avec un amour sincère et véridique, Allah il te permet de les rejoindre au même degré dans le paradis. Allahu Akbar. Lakin, avec un souci permanent, avec un attachement continu à être sur la même voie. Et à chaque fois, dans toutes tes adorations, tu es soucieux de faire comme ils ont fait et d'adorer Allah comme ils l'ont adoré à ton niveau et avec ta faiblesse et tes manquements. فَإِنَّ مِنَاكَ الْأَمْرِ أَن تَكُونَ عَلَى اسْتِقَامَةٍ. Car ce qui compte en réalité, c'est d'être sur la droiture. Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, il a une autre parole qui clarifie encore ce sens. Je vous l'ai dit en résumé. Yani, il a dit, quand il a exprimé son souhait d'être avec Had Salaf, ceux qui l'ont précédé parmi les pieux prédécesseurs, comme si les gens se sont étonnés, comment tu vas les rejoindre, comment tu vas être avec eux. Il a dit, peu importe pour moi, ce qui compte, c'est d'être sur la même voie que eux. C'est d'être sur la même voie que eux. Certes, eux, ils étaient sur des chevaux qui cavalaient bien. Il y a une idée, entre parenthèses, des purs sang. Et nous, on est sur des ânes blessés. Yani, on ne peut pas aller à la même vitesse. Lakin, on doit être sur la même voie. Car celui qui emprunte la bonne voie, quand bien même il arrive beaucoup plus tard, mais il finit par arriver. Contrairement à celui qui prend les déviations. Hada, il peut ne pas arriver. Nasallallahu salam al-afi. Ensuite, il a dit, Ama ra'ayta al-yahuda wa al-nasara wa ahla al-ahwa'i al-murdiyati yuhibbuna anbiya'ahum. Il lui a dit, n'as-tu pas vu que les juifs et les chrétiens et les gens de l'innovation et des passions, yani, ils aiment leurs prophètes. Certes, yani, les juifs et les chrétiens, ils prétendent aimer leurs prophètes. Et si tu prends un innovateur, il ne va pas te dire « je déteste le prophète ». Tous ils prétendent cela, alors qu'ils ne seront pas avec eux. وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل. Pourquoi? Parce qu'ils les ont pas suivis dans les paroles, dans les actes et dans la science, dans les paroles et dans les actes, dans les paroles et dans les actes. وسلكوا غير طريقهم. Ils ont emprunté autre voie que la leur. فصار موردهم النار. C'est pour ça leur destinée, c'est le feu. والعياذ بالله. Fin de cette parole. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما كثر المدعون للمحبة. يعني quand ceux qui prétendent aimer, يعني qui prétendent l'amour, que ce soit l'amour d'Allah ou l'amour de son prophète عليه الصلاة والسلام, طلبوا بالبينة على صحة الدعوة. Il leur a été demandé les preuves de cette prétention, les preuves de cet amour. Et car si on demandait à chacun selon ce qu'il prétend, on aurait, yani celui qui n'est pas touché par une peine, ni par une tristesse, il aura demandé ce que mérite celui qui est touché par une peine, une tristesse. Ça c'est yani, mathal, une citation que les Arabes disent, pour exprimer, yani, si on donne avec, selon les prétentions, on va donner à des personnes ce qui ne leur revient pas de droit. فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل. Et quand on leur a demandé les preuves et les arguments sur la véracité de cet amour, chacun a ramené yani ses arguments et ses preuves et ses témoins pour yani justifier de la véracité de cette prétention. Et à ce moment-là, on leur a dit: il n'est pas accepté comme preuve et argument qu'un seul. Lequel? C'est celui dans la parole d'Allah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Dis-leur, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. فَتَأَخَّرَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ. Donc tous, ils ont reculé. Ils ont fait marche arrière. Tous ceux qui ont eu ces prétentions ont fait marche arrière. Ils ont tous reculé. Ils ne sont restés fermes sur cette prétention que les véridiques d'entre eux, les suiveurs du prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, dans ses actes, dans ses paroles et dans ses comportements. Et notez bien mes frères, l'imam ibn al-Qayyim a cité les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment dans sa croyance, dans ses paroles, dans ses adorations, mais il a cité dans ses comportements également. Il a cité le comportement pour son importance et n'est pas la compréhension de ceux qui n'ont pas bien compris ce point. Ceux qui ont compris que le fait qu'un mauvais comportement ne te fait pas sortir de la salafia, que c'est pas grave, tu peux avoir les mauvais comportements. D'ailleurs, les gens les plus proches du prophète, c'est ceux qui auront les meilleurs comportements. Et pas les gens yani, qui parlent mal et qui ont une dureté qui n'est pas à sa place. Al-akhlaq sont d'une grande importance dans la religion de l'islam. Au point où le Nabi a résumé sa da'wa dans le perfectionnement du bon comportement. Il a dit « Innama bu'ithtu » Innama, comme vous savez, c'est « adat hasan ». Comme s'il a limité la raison et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé dans l'amélioration et le perfectionnement du comportement. Lakin ici, il est question de comprendre le comportement dans son sens général, qui englobe les trois catégories. Le comportement avec le Créateur, et le comportement avec le messager et la législation, et le dernier qui est le comportement avec les créatures. Donc celui qui excelle dans ce comportement, c'est celui-là qui est réellement sur les pas du prophète عليه الصلاة والسلام. Et c'est celui-là qui sera le plus proche de Nabi عليه الصلاة والسلام dans le paradis. وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى فيما نقل عنه الإمام ابن تيمية في صون المنطق. Donc l'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, comme a rapporté sa parole l'imam ibn Taymiyyah dans son livre صون المنطق, il a dit: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه. ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. Il a dit, il nous a été ordonné et on a été incité à être dans le suivi. Il nous a été interdit et réprimé d'être dans l'innovation, d'inventer. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال الصحابة رضي الله عنهم. Suivez et n'innovez pas dans la religion. La religion a été complétée, parachevée avec la mort du prophète عليه الصلاة والسلام et avec l'arrêt de la révélation. La religion, elle est complète. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans l'adoration et dans la religion. Il n'y a qu'à suivre ce que le Nabi عليه الصلاة والسلام nous a enseigné et de le faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit accepté. Amma, ramener des adorations et des pratiques qui n'ont pas été enseignées par le Nabi عليه الصلاة والسلام, ça ce sont des innovations qui ne seront jamais acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit wa shi'aru ahli sunnah, l'emblème des adeptes de la sunna, ittiba'uhum lis salaf as-salih wa tarkuhum li kulli ma huwa mubtada'un muhdath. Donc c'est quoi l'emblème des adeptes de la sunna? Leur suivi des pieux prédécesseurs et leur délaissement de tout ce qui est innové et inventé dans la religion. Fin de sa parole. Donc, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, il dit « Idhan laysa kullu man rafa'a ash-shi'ara kana sadiqa » C'est pas toute personne qui lève le slogan ou l'emblème de Ahl-Sunnah wal-Jama'a est forcément quelqu'un qui fait partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est pour ça, comme vous savez, nous devons revenir aux hommes de science pour savoir qui est sur la sunna et qui ne l'est pas, parmi ceux qui dispensent les cours et qui appellent à la religion. Pas toute personne qui appelle à la religion, on prend d'elle. « Innama hadha al-ilmu dinun, inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. » On doit revenir vers les hommes de science et ne pas se contenter du peu de science que nous avons pour juger est-ce que hadha il est sur sunna ou pas. Car les égarements peuvent être... Les égarements et les déviances de la personne peuvent être subtils. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته. Donc l'imam ibn Taymiyyah dit: nous ne voulons pas par les gens du hadith ceux qui se limitent à écouter le hadith et à l'écrire et à le rapporter, yani le propager. Mais ce que nous voulons par les gens du hadith, tous ceux qui sont plus à même de le mémoriser et de le connaître et de le comprendre et de le suivre en apparence et en intérieur. Yani, le résumé de cette parole, les Ahl Hadith, quand bien même il n'est pas dans la science du Hadith, quand bien même il étudie pas la science du Hadith, lakin il est sur la même voie que Ahl Hadith, dans leur compréhension des textes et dans la mise en pratique de ces textes. Et Cheikh Hafidhahullah a terminé, et on va terminer avec ça, il a terminé avec une anecdote. Et à son sujet, il a rapporté une parole de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, qui a décrit cet événement. Je vais vous le résumer. Yani, cet événement de Juhayman. Juhayman s'est égaré, yani, nasallallahu al-salam al-afiya, qui a commis un des crimes les plus graves de notre ère, de notre époque, yani, avec ses suiveurs. Juhayman, à la base, c'était un employé. Et comme s'il a commencé à aimer la religion, et donc il a démissionné de son travail, et il a commencé à apprendre un petit peu. Et le problème toujours est à Ikhwa, il vient de ceux qui ont appris un petit peu. Et surtout ceux qui n'ont pas appris avec les hommes de science. Et si vous voulez avoir une clarté, une compréhension claire à ce sujet, revenez à ce que dit Shatibi Rahimallah dans son livre L'Atissam. D'où viennent les égarements? Les égarements ne viennent jamais de quelqu'un qui a été avec les savants durant de longues années. Mais ça vient en général de Ansaf al-Muta'allimin, ceux qui ont appris un petit peu, mais qui n'ont pas qui ne sont pas restés avec l'ulama longtemps, comme le cas de cet homme. Cet homme a commencé à apprendre un petit peu, lakin, pas avec l'ulama. Et par la suite, il a créé comme une secte. Au début, il interdisait le mal et il ordonnait le convenable. Et l'ulama les soutenait dans ça. Il revenait vers Cheikh Ibn Baz, il lui demandait conseil. Et Cheikh soutenait ces choses-là, car au début, c'était un bien. Au début, ils ont commencé avec quelque chose de bien, alhamdoulilah. Par la suite, cet homme a commencé à avoir des idées bizarres. Et il a commencé à... tellement il a désespéré, et ça c'est ce qui arrive le plus souvent aux Khawarij. Quand ils voient la réalité, et même cette réalité, ce n'est pas eux qui vont la voir, c'est ce qu'on va leur dire. On va leur donner une image noire de la société, au point ils voient que les gens sont tous égarés. Donc là, c'est la fin des temps qui doit arriver. C'est ce qui est arrivé à cet homme, au point il a commencé à chercher un homme pour qu'il soit le Mahdi al-Muntada. Et il a trouvé effectivement un étudiant qui était jeune dans l'âge, qu'il a su manipuler, qui s'appelle Mohammed, fils de Abdullah al-Qahtani. Et il est tellement ignorant que cet homme, c'est un Qahtani. Ça ne peut pas être le Mahdi al-Muntadhar. Le Mahdi al-Muntadhar, c'est un Adnani. Mais pour voir, il a appris un petit peu comme quoi le Mahdi al-Muntadhar, c'est un homme qui s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, comme le prophète. Il est de la famille du prophète, mais c'est un Qahtani. Et malgré cela, et c'est ce jeune étudiant, effectivement, il avait certaines qualités, certains bons comportements. Il avait un ijtihad dans l'ibada. Al-Mohim, il a réussi à le convaincre qu'il est le Mahdi al-Muntada. Et après, il a commencé à propager ça dans ses suiveurs. Il a eu plus de 200 suiveurs. Et jusqu'au jour où ils ont décidé à encercler l'Haram al-Makki avec des armes qu'ils ont réussi à faire pénétrer dans le Masjid al-Haram, dans des cercueils. Ils ont fait comme s'il y a eu des morts et plusieurs cercueils, et leurs suiveurs ont porté les cercueils sur les épaules comme ça se faisait à l'époque. Là qu'aujourd'hui, il y a plus de contrôle. Mais à l'époque, chacun il pouvait ramener les cercueils, il les rentrait dans le masjid, et ils font la salat sur les morts. Donc ils ont ramené plein de cercueils, une dizaine, remplis d'armes. Et directement après salat al-Fajr, ils ont fermé toutes les portes de le Masjid al-Haram, ils ont encerclé tout le monde, et ils ont commencé les catastrophes. Et ça a duré 2 semaines. Ils ont encerclé le Haram pendant 2 semaines, ils ont tué beaucoup de gens, et beaucoup parmi eux ont été tués, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis la libération de l'Haram. Et plusieurs d'entre eux ont été tués, et lui, il a été trouvé vivant, et ensuite, il a été exécuté. Mahdi al-Muntadhar, il a été tué. Lakin, ils ont caché ça. Pendant qu'ils encerclaient le Haram, il a été tué à ce moment-là, et Juhayman a caché cette nouvelle, car le Mahdi al-Muntadhar ne peut pas être tué. Il demandait à tous les pèlerins et tous les mu'tabini qui étaient dans le Haram à ce moment-là de faire le pacte d'allégeance à Mahdi al-Muntadhar. Et sous la menace et les armes, ils l'ont fait. Et donc les suiveurs, ils ont cru que c'était vraiment ça, comme c'est décrit dans le hadith. Mais quand il a été tué, Adam Mohammed ibn Abdillah al-Qahtani, il ne l'a pas dit aux autres. Et ça s'est terminé comme ça. Il voulait commencer Adil Bay'a avec le début du 14e siècle, 1400. C'est pour ça qu'il a commencé, et ça indique une autre ignorance. Il a commencé le premier du mois al-Muharram de l'année 1400. Et ça, ce n'est pas le début de ce siècle. Donc il s'est trompé même au niveau de la date. Et ils ont tué beaucoup de muslimines ce jour-là. Wallah al-Musta'an. Donc Cheikh Mohammed Amal, dans cette parole que Cheikh al-Bukhari a rapportée de lui, il décrit cet événement, il décrit l'égarement de ces jeunes, car c'était des jeunes faibles d'esprit, ignares. Et le fitel, le plus souvent, ça vient de ces gens-là. C'est des jeunes qui ont le Hamas, qui ont du zèle, lakin, pas la science, pas cadré par la science. Le Hamas est demandé en religion, lakin avec l'ilm. tout en étant derrière l'ulama. Et ces gens-là, pourquoi Cheikh al-Bukhari les a cités ici? Parce qu'ils se disaient salafiyin. Lakin, bien évidemment, ils sont très loin de salafiyya. Ils ont tué des musulmans dans le Masjid al-Haram. Peut-être même Kuffar Quraysh n'ont pas fait ça. Ils ont utilisé des appellations trompeuses et fallacieuses pour égarer les gens. Ils ont déformé la réalité et ils ont sali l'image de cette noble appellation qui est la salafiyya. Alors qu'ils sont loin de la salafiyya. Voilà pour aujourd'hui mes frères. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Et inshallah ta'ala, dans notre prochaine rencontre, nous allons commencer par le sixième point. Bi'idnillah. L'avant-dernier, avant la conclusion de cette risala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.